Ursule Mirouette, deuxième partie. La succession minorée. L'action commença par le jeu d'un ressort tellement usé dans la vieille comme dans la nouvelle littérature que personne ne pourrait croire à ses effets en 1829 s'il ne s'agissait pas d'une vieille bretonne, d'une kergarouette, d'une émigrée. Mais hâtons-nous de le reconnaître. En 1829, la noblesse avait reconquis dans les mœurs un peu du terrain perdu dans la politique. D'ailleurs, le sentiment qui gouverne les grands-parents dès qu'il s'agit des convenances matrimoniales est un sentiment impérissable, lié très étroitement à l'existence des sociétés civilisées et puisé dans l'esprit de famille. Il règne à Genève comme à Vienne, comme à Nemours, où Zélie Levrault refusait naguère à son fils de consentir à son mariage avec la fille d'un bâtard. Néanmoins, toute loi sociale a ses exceptions. Savinien pensait donc à faire plier l'orgueil de sa mère devant la noblesse innée d'Ursule. L'engagement eut lieu sur le champ. Dès que Savinien fut attablé, sa mère lui parla des lettres horribles, selon elle, que les kergarouettes et les portenduères lui avaient écrites. « Il n'y a plus de famille aujourd'hui, ma mère, » lui répondit Savinien. « Il n'y a plus que des individus. Les nobles ne sont plus solidaires. Aujourd'hui, on ne vous demande pas si vous êtes un portenduère, si vous êtes brave, si vous êtes homme d'État. Tout le monde vous dit « Combien payez-vous de contributions ?»«
Et le roi ?» demanda la vieille dame.
Le roi se trouve pris entre les deux chambres, comme un homme entre sa femme légitime et sa maîtresse. Aussi dois-je me marier avec une fille riche, à quelque famille qu'elle appartienne, avec la fille d'un paysan si elle a 1 million de dot et si elle est suffisamment bien élevée, c'est-à-dire si elle sort d'un pensionnat.
Ceci est autre chose, fit la vieille dame.
Savinien fronça les sourcils en entendant cette parole. Il connaissait cette volonté granitique, appelée l'entêtement breton, qui distinguait sa mère, et voulut savoir aussitôt son opinion sur ce point délicat.
« Ainsi, dit-il, si j'aimais une jeune personne, comme par exemple la pupille de notre voisin, la petite Ursule, vous vous opposeriez donc à mon mariage ?»«
Tant que je vivrai, dit-elle. Après ma mort, tu seras seul responsable de l'honneur et du sang des portenduères et des kergarouettes. »
Ainsi, vous me laisseriez mourir de faim et de désespoir pour une chimère qui ne devient aujourd'hui une réalité que par le lustre de la fortune.
Tu servirais la France et tu te fierais à Dieu.
Vous ajourneriez mon bonheur au lendemain de votre mort.
Ce serait horrible de ta part. Voilà tout.
Louis XIV a failli épouser la nièce de Mazarin, un parvenu.
Mazarin lui-même s'y est opposé.
Et la veuve de Scarron?
C'était une Daubigné. D'ailleurs, le mariage a été secret.
Mais je suis bien vieille, mon fils, dit-elle en hochant la tête. Quand je ne serai plus, vous vous marierez à votre fantaisie.
Savinien aimait et respectait à la fois sa mère. Il opposa sur-le-champ, mais silencieusement, à l'entêtement de la vieille kergarouette un entêtement égal, et résolut de ne jamais avoir d'autre femme qu'Ursule, à qui cette opposition donna, comme il arrive toujours en semblable occurrence, le mérite de la chose défendue. Lorsque, après vêpres, le docteur Minoret et Ursule, mis en blanc et rose, entrèrent dans cette froide salle, l'enfant fut saisi d'un tremblement nerveux, comme si elle se fût trouvée en présence de la reine de France et qu'elle eût une grâce à lui demander. Depuis son explication avec le docteur, cette petite maison avait pris les proportions d'un palais, et la vieille dame, toute la valeur sociale qu'une duchesse devait avoir au Moyen-Âge, aux yeux de la fille d'un vilain. Jamais Ursule ne mesura plus désespérément qu'en ce moment
la distance qui séparait un vicomte de Portenduère de la fille d'un capitaine de musique, ancien chanteur aux Italiens, fils naturel d'un organiste, et dont l'existence tenait aux bontés d'un médecin.
« Qu'avez-vous, mon enfant ? » lui dit la vieille dame en la faisant asseoir près d'elle.
« Madame, je suis confuse de l'honneur que vous daignez me faire. »
« Eh, ma petite !» répliqua madame de Portenduère de son ton le plus aigre. « Je sais combien votre tuteur vous aime et veut lui être agréable, car il m'a ramené l'enfant prodigue. »
« Mais, ma chère mère, » dit Savinien, atteint au cœur, en voyant la vive rougeur d'Ursule et la contraction horrible par laquelle elle réprima ses larmes.
« Quand même, vous n'auriez aucune obligation à monsieur le chevalier Minoret. Il me semble que nous pourrions toujours être heureux du plaisir que mademoiselle veut bien nous donner en acceptant votre invitation. »
Et le jeune gentilhomme serra la main du docteur d'une façon significative en ajoutant
« Vous portez, monsieur, l'ordre de Saint-Michel, le plus vieil ordre de France et qui confère toujours la noblesse. »
L'excessive beauté d'Ursule, à qui son amour presque sans espoir avait prêté depuis quelques jours cette profondeur que les grands peintres ont imprimée à ceux de leurs portraits où l'âme est fortement mise en relief, avait soudain frappé madame de Portenduère en lui faisant soupçonner un calcul d'ambitieux sous la générosité du docteur. Aussi, la phrase à laquelle répondait alors Savinien fut-elle dite avec une intention qui blessa le vieillard en ce qu'il avait de plus cher. Mais il ne put réprimer un sourire en s'entendant nommer « chevalier » par Savinien, et reconnut dans cette exagération l'audace des amoureux qui ne reculent devant aucun ridicule.
L'ordre de Saint-Michel, qui jadis fit commettre tant de folies pour être obtenu, est tombé, monsieur le vicomte,
répondit l'ancien médecin du roi, comme sont tombés tant de privilèges. Il ne se donne plus aujourd'hui qu'à des médecins, à de pauvres artistes. Aussi les rois ont-ils bien fait de le réunir à celui de Saint-Lazare, qui, je crois, était un pauvre diable rappelé à la vie par un miracle. Sous ce rapport, l'ordre de Saint-Michel et Saint-Lazare serait pour nous un symbole. Après cette réponse, à la fois empreinte de moquerie et de dignité, le silence régna sans que personne le voulût rompre, et il était devenu gênant quand on frappa.
« Voici notre cher curé !» dit la vieille dame qui se leva, laissant Ursule seule et allant au-devant de l'abbé Chaperon,
honneur qu'elle n'avait fait ni à Ursule ni au docteur. Le vieillard sourit en regardant tour à tour sa pupille et Savinien. Se plaindre des manières de madame de Portenduère, ou s'en offenser, était un écueil sur lequel un homme d'un petit esprit aurait touché. Mais Minoret avait trop d'acquis pour ne pas l'éviter. Il se mit à causer avec le vicomte du danger que courait alors Charles X, après avoir confié la direction des affaires au prince de Polignac. Lorsqu'il y eut assez de temps écoulé pour qu'en parlant d'affaires le docteur n'eût point l'air de se venger, il présenta, presque en plaisantant, à la vieille dame les dossiers de poursuite et les mémoires acquittés qui appuyaient un compte fait par son notaire.
« Mon fils l'a reconnu ? » dit-elle en jetant à Savinien un regard auquel il répondit en inclinant la tête.
« Eh bien, c'est l'affaire de Dionys, » ajouta-t-elle en repoussant les papiers et traitant cette affaire avec le dédain qu'à ses yeux méritait l'argent. Rabaisser la richesse, c'était, dans les idées de madame de Portenduère, élever la noblesse et ôter toute son importance à la bourgeoisie. Quelques instants après, Goupil vint de la part de son patron demander les comptes entre Savinien et monsieur Minoret.
« Et pourquoi ?» dit la vieille dame.
« Pour en faire la base de l'obligation, il n'y a pas délivrance d'espèces, » répondit le premier clerc en jetant autour de lui des regards effrontés.
Ursule et Savinien, qui pour la première fois échangèrent un coup d'œil avec cet horrible personnage, éprouvèrent la sensation que cause un crapaud, mais aggravée par un sinistre pressentiment. Tous deux, ils eurent cette indéfinissable et confuse vision de l'avenir sans nom dans la langue, mais qui serait explicable par une action de l'être intérieur dont avait parlé le Swedenborgiste au docteur Minoret. La certitude que ce venimeux goupil leur serait fatal fit trembler Ursule. Mais elle se remit de son trouble en sentant un indicible plaisir à voir Savinien partageant son émotion.
« Il n'est pas beau, le clerc de Monsieur Dionis, » dit Savinien quand Goupil eut fermé la porte.
« Mais qu'est-ce que cela fait, que ces gens-là soient beaux ou laids ?» dit Madame de Portenduère.
« Je ne lui en veux pas de sa laideur, » reprit le curé, « mais de sa méchanceté qui passe les bornes. Il y met de la scélératesse. »
Malgré son désir d'être aimable, le docteur devint digne et froid. Les deux amoureux furent gênés. Sans la bonhomie de l'abbé Chaperon, dont la gaieté douce anima le dîner, la situation du docteur et de sa pupille eût été presque intolérable. Au dessert, en voyant pâlir Ursule, il lui dit
« Si tu ne te trouves pas bien, mon enfant, tu n'as que la rue à traverser. »«
Qu'avez-vous, mon cœur ?» dit la vieille dame à la jeune fille.
« Hélas, madame, reprit sévèrement le docteur, son âme a froid, habituée comme elle l'est à ne rencontrer que des sourires. »«
Une bien mauvaise éducation, monsieur le docteur, » dit madame de Portenduère. « N'est-ce pas, monsieur le curé ?»«
Oui, madame, » répondit Minoret en jetant un regard au curé qui se trouva sans parole. J'ai rendu, je le vois, la vie impossible à cette nature angélique si elle devait aller dans le monde. Mais je ne mourrai pas sans l'avoir mise à l'abri de la froideur, de l'indifférence et de la haine.
Mon parrain, je vous en prie, assez, je ne souffre pas ici,
dit-elle en affrontant le regard de madame de Portenduère, plutôt que de donner trop de signification à ses paroles en regardant Savinien.
« Je ne sais pas, madame, » dit alors Savinien à sa mère, « si mademoiselle Ursule souffre, mais je sais que vous me mettez au supplice. »
En entendant ce mot, arraché par les façons de sa mère à ce généreux jeune homme, Ursule pâlit et pria madame de Portenduère de l'excuser. Elle se leva, prit le bras de son tuteur, salua, sortit, revint chez elle, entra précipitamment dans le salon de son parrain où elle s'assit près de son piano, mit sa tête dans ses mains et fondit en larmes.
« Pourquoi ne laisses-tu pas la conduite de tes sentiments à ma vieille expérience, cruel enfant ? » s'écria le docteur au désespoir. « Les nobles ne se croient jamais obligés par nous autres bourgeois. En les servant, nous faisons notre devoir, voilà tout. » D'ailleurs, la vieille dame a vu que Savinien te regardait avec plaisir. Elle a peur qu'il ne t'aime.
« Enfin, il est sauvé ? » dit-elle. « Mais essayez d'humilier un homme comme vous. »
« Attends-moi, ma petite. »
Quand le docteur revint chez madame de Portenduère, il y trouva Dionis, accompagné de messieurs Bongrand et Levrault, le maire, témoin exigé par la loi pour la validité des actes passés dans les communes où il n'existe qu'un notaire. Minoret prit à part M. Dionis et lui dit un mot à l'oreille, après lequel le notaire fit la lecture de l'obligation. Madame de Portenduère y donnait une hypothèque sur tous ses biens jusqu'au remboursement des 100 000 francs prêtés par le docteur au vicomte, et les intérêts y étaient stipulés à 5%. À la lecture de cette clause, le curé regarda Minoret, qui répondit à l'abbé par un léger coup de tête approbatif. Le pauvre prêtre alla dire à l'oreille de sa pénitente quelques mots auxquels elle répondit à mi-voix.
je ne veux rien devoir à ces gens-là.
Ma mère, monsieur, me laisse le beau rôle, dit Savinien au docteur. Elle vous rendra tout l'argent et me charge de la reconnaissance.
Mais il vous faudra trouver 11 000 francs la première année à cause des frais du contrat, reprit le curé.
Monsieur, dit Minoret à Dionis, comme monsieur et madame de Portenduère sont hors d'état de payer l'enregistrement, joignez les frais de l'acte au capital, je vous les paierai.
Dionis fit des renvois, et le capital fut alors fixé à 107 000 francs. Quand tout fut signé, Minoret prétexta de sa fatigue pour se retirer, en même temps que le notaire et les témoins.
« Madame, dit le curé qui resta seul avec le vicomte, pourquoi choquer cet excellent monsieur Minoret qui vous a sauvé cependant au moins 25 000 francs à Paris, et qui a eu la délicatesse de laisser 20 000 à votre fils pour ses dettes d'honneur ?
Votre Minoret est un sournois, dit-elle en prenant une pincée de tabac. Il sait bien ce qu'il fait.
Ma mère croit qu'il veut m'obliger à épouser sa pupille en englobant notre ferme, comme si l'on pouvait forcer un Portenduère, fils d'un Kergarouët, à se marier contre son gré.
Une heure après, Savinien se présenta chez le docteur, où les héritiers se trouvaient, amenés par la curiosité. L'apparition du jeune vicomte produisit une sensation d'autant plus vive que, chez chacun des assistants, elle excita des émotions différentes. Mesdemoiselles Crémière et Massin chuchotèrent en regardant Ursule qui rougissait. Les mères dirent à Désiré que Goupil pouvait bien avoir raison à l'égard de ce mariage. Les yeux de toutes les personnes présentes se tournèrent alors sur le docteur, qui ne se leva point pour recevoir le gentilhomme, et se contenta de le saluer par une inclination de tête, sans quitter le cornet, car il faisait une partie de tric-trac avec M. Bongrand. L'air froid du docteur surprit tout le monde.
« Ursule, mon enfant, dit-il, fais-nous un peu de musique. »
En voyant la jeune fille, heureuse d'avoir une contenance, sauter sur l'instrument et remuer les volumes reliés en verre, les héritiers acceptèrent avec des démonstrations de plaisir le supplice et le silence qui allaient leur être infligés, tant ils tenaient à savoir ce qui se tramait entre leur oncle et les Portenduère. Il arrive souvent qu'un morceau pauvre en lui-même, mais exécuté par une jeune fille sous l'empire d'un sentiment profond, fasse plus d'impression qu'une grande ouverture pompeusement dite par un orchestre habile. Il existe en toute musique, outre la pensée du compositeur, l'âme de l'exécutant, qui, par un privilège acquis seulement à cet art, peut donner du sens et de la poésie à des phrases sans grande valeur. Chopin prouve aujourd'hui, pour l'ingrat piano, la vérité de ce fait déjà démontré par Paganini pour le violon. Ce beau génie est moins un musicien qu'une âme, qui se rend sensible et qui se communiquerait par toute espèce de musique, même par de simples accords. Par sa sublime et périlleuse organisation, Ursule appartenait à cette école de génie si rare. Mais le vieux Schmuck, le maître qui venait chaque samedi et qui, pendant le séjour d'Ursule à Paris, la vit tous les jours, avait porté le talent de son élève à toute sa perfection. Le songe de Rousseau, morceau choisi par Ursule, une des compositions de la jeunesse d'Hérold, ne manque pas d'ailleurs d'une certaine profondeur qui peut se développer à l'exécution. Elle y jeta les sentiments qui l'agitaient, et justifia bien le titre de caprice que porte ce fragment. Par un jeu à la fois suave et rêveur, son âme parlait à l'âme du jeune homme et l'enveloppait comme d'un nuage par des idées presque visibles. Assis au bout du piano, le coude appuyé sur le couvercle et la tête dans sa main gauche, Savinien admirait Ursule, dont les yeux arrêtés sur la boiserie semblaient interroger un monde mystérieux.
on serait devenu profondément amoureux à moins. Les sentiments vrais ont leur magnétisme. Et Ursule voulait en quelque sorte montrer son âme, comme une coquette se pare pour plaire. Savinia pénétra donc dans ce délicieux royaume, entraînée par ce cœur qui, pour s'interpréter lui-même, empruntait la puissance du seul art qui parle à la pensée par la pensée même, sans le secours de la parole, des couleurs ou de la forme. La candeur a sur l'homme le même pouvoir que l'enfance. Elle en a les attraits et les irrésistibles séductions. Or, jamais Ursule ne fut plus candide qu'en ce moment où elle naissait à une nouvelle vie. Le curé vint arracher le gentilhomme à son rêve, en lui demandant de faire le quatrième au whist. Ursule continua de jouer, les héritiers partirent, à l'exception de Désiré, qui cherchait à connaître les intentions de son grand-oncle, du vicomte et d'Ursule. « Vous avez autant de talent que d'âme, mademoiselle, » dit Savinien quand la jeune fille ferma son piano pour venir s'asseoir à côté de son parrain. « Quel est donc votre maître ?»«
Un Allemand, logé précisément auprès de la rue Dauphine, sur le quai Conti, » dit le docteur. « S'il n'avait pas donné tous les jours une leçon à Ursule pendant notre séjour à Paris, il serait venu ce matin. »
« C'est non seulement un grand musicien, » dit Ursule, « mais un homme adorable de naïveté. »
« Ces leçons-là doivent coûter cher, » s'écria Désiré.
Un sourire d'ironie fut échangé par les joueurs. Quand la partie se termina, le docteur, soucieux jusqu'alors, prit, en regardant Savinien, l'air d'un homme peiné d'avoir à remplir une obligation.
« Monsieur, » lui dit-il. Je vous sais beaucoup de gré du sentiment qui vous a porté à me faire si promptement visite. Mais madame votre mère me suppose des arrière-pensées très peu nobles, et je lui donnerais le droit de les croire vraies si je ne vous priais pas de ne plus venir me voir, malgré l'honneur que me ferez vos visites et le plaisir que j'aurais à cultiver votre société. Mon honneur et mon repos exigent que nous cessions toute relation de voisinage. Dites à madame votre mère que si je ne vais point la prier de nous faire l'honneur, à ma pupille et à moi, d'accepter à dîner dimanche prochain, c'est à cause de la certitude où je suis qu'elle serait indisposée ce jour-là. »
Le vieillard tendit la main au jeune vicomte, qui la lui serra respectueusement en lui disant « Vous avez raison, monsieur. » Et il se retira, non sans faire à Ursule un salut qui révélait plus de mélancolie que de désappointement. Désiré sortit en même temps que le gentilhomme, mais il lui fut impossible d'échanger un mot, car Savinien se précipita chez lui. Le désaccord des portenduères et du docteur Minoret défraya pendant 2 jours la conversation des héritiers, qui rendirent hommage au génie de Dionys, et regardèrent alors leur succession comme sauvée. Ainsi, dans un siècle où les rangs se nivellent, où la manie de l'égalité met de plein pied tous les individus et menace tout, jusqu'à la subordination militaire, dernier retranchement du pouvoir en France, où, par conséquent, les passions n'ont plus d'autres obstacles à vaincre que les antipathies personnelles, ou le défaut d'équilibre entre les fortunes, l'obstination d'une vieille bretonne et la dignité du docteur Minoret élevaient entre ces 2 amants des barrières destinées comme autrefois moins à détruire qu'à fortifier l'amour. Pour un homme passionné, toute femme vaut ce qu'elle lui coûte. Or, Savinien apercevait une lutte, des efforts, des incertitudes qui lui rendaient déjà cette jeune fille chère. Il voulait la conquérir. Peut-être nos sentiments obéissent-ils aux lois de la nature sur la durée de ses créations. À longue vie, longue enfance. Le lendemain matin, en se levant, Ursule et Savinien eurent une même pensée. Cette entente ferait naître l'amour si elle n'en était pas déjà la plus délicieuse preuve. Lorsque la jeune fille écarta légèrement ses rideaux afin de donner à ses yeux l'espace strictement nécessaire pour voir chez Savinien, elle aperçut la figure de son amant au-dessus de l'espagnolette en face. Quand on songe aux immenses services que rendent les fenêtres aux amoureux, il semble assez naturel d'en faire l'objet d'une contribution. Après avoir ainsi protesté contre la dureté de son parrain, Ursule laissa retomber les rideaux et ouvrit ses fenêtres pour fermer ses persiennes, à travers lesquelles elle pourrait désormais voir sans être vue. Elle monta bien 7 ou 8 fois pendant la journée à sa chambre et trouva toujours le jeune vicomte écrivant, déchirant des papiers et recommençant à écrire, à elle sans doute. Le lendemain matin, au réveil d'Ursule, la Bougival lui monta la lettre suivante. À Mademoiselle Ursule. Mademoiselle, je ne me fais point illusion sur la défiance que doit inspirer un jeune homme qui s'est mis dans la position d'où je ne suis sorti que par l'intervention de votre tuteur. Il me faut donner désormais plus de garantie que tout autre. Aussi, mademoiselle, est-ce avec une profonde humilité que je me mets à vos pieds pour vous avouer mon amour. Cette déclaration n'est pas dictée par une passion. Elle vient d'une certitude qui embrasse la vie entière. Une folle passion pour ma jeune tante, madame de Kergarouët, m'a jetée en prison. Ne trouverez-vous pas une marque de sincère amour dans la complète disparition de mes souvenirs et de cette image effacée de mon cœur par la vôtre? Dès que je vous ai vue endormie et si gracieuse dans votre sommeil d'enfant à Bouron, vous avez occupé mon âme en reine qui prend possession de son empire. Je ne veux pas d'autre femme que vous. Vous avez toutes les distinctions que je souhaite dans celle qui doit porter mon nom. L'éducation que vous avez reçue et la dignité de votre cœur vous mettent à la hauteur des situations les plus élevées. Mais je doute trop de moi-même pour essayer de vous bien peindre à vous-même. Je ne puis que vous aimer. Après vous avoir entendu hier, je me suis souvenu de ces phrases qui semblent écrites pour vous. Faites pour attirer les cœurs et charmer les yeux, à la fois douce et indulgente, spirituelle et raisonnable, polie comme si elle avait passé sa vie dans les cours, simple comme le solitaire qui n'a jamais connu le monde. Le feu de son âme est tempéré dans ses yeux par une divine modestie. J'ai senti le prix de cette belle âme qui se révèle en vous dans les plus petites choses. Voilà ce qui me donne la hardiesse de vous demander, si vous n'aimez encore personne, de me laisser vous prouver par mes soins et par ma conduite que je suis digne de vous. Il s'agit de ma vie. Vous ne pouvez douter que toutes mes forces ne soient employées non seulement à vous plaire, mais encore à mériter votre estime, qui peut tenir lieu de celle de toute la terre. Avec cet espoir, Ursule, et si vous me permettez de vous nommer dans mon cœur comme une adorée, Nemours sera pour moi le paradis. Et les plus difficiles entreprises ne m'offriront que des jouissances qui vous seront rapportées, comme on rapporte tout à Dieu. Dites-moi donc que je puis me dire « Votre Savinien ». Ursule baisa cette lettre. Puis, après l'avoir relue et tenue avec des mouvements insensés, elle s'habilla pour aller la montrer à son parrain. « Mon Dieu, j'ai failli sortir sans faire mes prières !» dit-elle en rentrant pour s'agenouiller à son prie-Dieu. Quelques instants après, elle descendit au jardin et y trouva son tuteur, à qui elle fit lire la lettre de Savinien. Tous deux, ils s'assirent sur le banc, sous le massif de plantes grimpantes, en face du pavillon chinois. Ursule attendait un mot du vieillard. Et le vieillard réfléchissait beaucoup trop longtemps pour une fille impatiente. Enfin, de leur entretien secret, il résulta la lettre suivante, que le docteur avait sans doute en partie dictée. « Monsieur,
Je ne puis être que fort honoré de la lettre par laquelle vous m'offrez votre main. Mais, à mon âge, et d'après les lois de mon éducation, j'ai dû la communiquer à mon tuteur, qui est toute ma famille, et que j'aime à la fois comme un père et comme un ami. Voici donc les cruelles objections qu'il m'a faites et qui doivent me servir de réponse. Je suis, monsieur le vicomte, une pauvre fille, dont la fortune à venir dépend entièrement non seulement des bons vouloirs de mon parrain, mais encore des mesures chanceuses qu'il prendra pour éluder les mauvais vouloirs de ses héritiers à mon égard. Quoique fille légitime de Joseph Mirouette, capitaine de musique au 45e régiment d'infanterie, comme il est le beau-frère naturel de mon tuteur, on pourrait, quoique sans raison, faire un procès à une jeune fille qui resterait sans défense. Vous voyez, monsieur, que mon peu de fortune n'est pas mon plus grand malheur. J'ai bien des raisons d'être humble. C'est pour vous et non pour moi que je vous soumets de pareilles observations, qui sont souvent d'un poids léger pour des cœurs aimants et dévoués. Mais considérez aussi, monsieur, que si je ne vous les soumettais pas, je serais soupçonné de vouloir faire passer votre tendresse par-dessus des obstacles que le monde, et surtout votre mère, trouverait invincibles. J'aurai 16 ans dans 4 mois. Peut-être reconnaîtrez-vous que nous sommes l'un et l'autre trop jeunes et trop inexpérimentés pour combattre les misères d'une vie commencée sans autre fortune que ce que je tiens de la bonté de feu monsieur de Jordy. Mon tuteur désire d'ailleurs ne pas me marier avant que j'aie atteint 20 ans. Qui sait ce que le sort vous réserve durant ces 4 années, les plus belles de votre vie? Ne la brisez donc pas pour une pauvre fille. Après vous avoir exposé, monsieur, les raisons de mon cher tuteur, qui, loin de s'opposer à mon bonheur, veut y contribuer de toutes ses forces et souhaite voir sa protection, bientôt débile, remplacée par une tendresse égale à la sienne, il me reste à vous dire combien je suis touché et de votre offre et des compliments affectueux qui l'accompagnent. La prudence qui dicte cette réponse est d'un vieillard à qui la vie est bien connue. Mais la reconnaissance que je vous exprime est d'une jeune fille, à qui nul autre sentiment n'est entré dans l'âme. Ainsi, monsieur, je puis me dire, en toute vérité, votre servante, Ursule Mirouette. Savinien ne répondit pas. Faisait-il des tentatives auprès de sa mère? Cette lettre avait-elle éteint son amour? 1000 questions semblables, toutes insolubles, tourmentaient horriblement Ursule, et par ricochet le docteur, qui souffrait des moindres agitations de sa chère enfant. Ursule montait souvent à sa chambre et regardait chez Savinien, qu'elle voyait, pensif, assis devant sa table, et tournant souvent les yeux sur ses fenêtres à elle. À la fin de la semaine, pas plus tôt, elle reçut la lettre suivante de Savinien, dont le retard s'expliquait par un surcroît d'amour. À Mademoiselle Ursule Mirouette. Chère Ursule, je suis un peu breton, et une fois mon parti pris, rien ne m'en fait changer. Votre tuteur, que Dieu conserve encore longtemps, a raison. Mais ai-je donc tort de vous aimer? Aussi voudrais-je seulement savoir de vous si vous m'aimez. Dites-le-moi, ne fût-ce que par un signe, et c'est alors que ces 4 années deviendront les plus belles de ma vie. Un de mes amis a remis à mon grand-oncle, le vice-amiral de Kergarouët, une lettre où je lui demande sa protection pour entrer dans la marine. Ce bon vieillard, ému par mes malheurs, m'a répondu que la bonne volonté du roi serait contrecarrée par les règlements dans le cas où je voudrais un grade. Néanmoins, après 3 mois d'études à Toulon, le ministre me fera partir comme maître de timonerie. Puis, après une croisière contre les Algériens, avec lesquels nous sommes en guerre, je puis subir un examen et devenir aspirant. Enfin, si je me distingue dans l'expédition qui se prépare contre Alger, je serai certainement enseigne. Mais dans combien de temps? Personne ne peut le dire. Seulement,
on rendra les ordonnances aussi élastiques qu'il sera possible pour réintégrer le nom de Portenduère à la marine. Je ne dois vous obtenir que de votre parrain, je le vois, et votre respect pour lui vous rend plus cher à mon cœur. Avant de répondre, je vais donc avoir une entrevue avec lui. De sa réponse dépendra tout mon avenir. Quoi qu'il advienne, sachez que, riche ou pauvre, fille d'un capitaine de musique ou fille d'un roi, vous êtes pour moi celle que la voix de mon cœur a désignée. Chère Ursule, nous sommes dans un temps où les préjugés, qui jadis nous eussent séparés, n'ont pas assez de force pour empêcher notre mariage. À vous donc tous les sentiments de mon cœur, et à votre oncle des garanties qui lui répondent de votre félicité. Il ne sait pas que je vous ai dans quelques instants plus aimé qu'il ne vous aime depuis 15 ans. À ce soir. Tenez, mon parrain, dit Ursule en lui tendant cette lettre par un mouvement d'orgueil. Ah, mon enfant, s'écria le docteur après avoir lu la lettre, je suis plus content que toi. Le gentilhomme a, par cette résolution, réparé toutes ses fautes. Après le dîner, Savinien se présenta chez le docteur, qui se promenait alors avec Ursule le long de la balustrade de la terrasse sur la rivière. Le vicomte avait reçu ses habits de Paris, et l'amoureux n'avait pas manqué de rehausser ses avantages naturels par une mise aussi soignée, aussi élégante que s'il se fût agi de plaire à la belle et fière comtesse de Kergarouët. En le voyant venir du perron vers eux, la pauvre petite serra le bras de son oncle absolument comme si elle se retenait pour ne pas tomber dans un précipice. Et le docteur entendit de profondes et sourdes palpitations qui lui donnèrent le frisson. « Laisse-nous, mon enfant, » dit-il à sa pupille, qui s'assit sur les marches du pavillon chinois, après avoir laissé prendre sa main par Savinien, qui y déposa un baiser respectueux. « Monsieur, donnerez-vous cette chère personne à un capitaine de vaisseau ?» dit le jeune vicomte à voix basse au docteur. « Non, » dit Minoret en souriant, « nous pourrions attendre trop longtemps, mais à un lieutenant de vaisseau. » Des larmes de joie humectèrent les yeux du jeune homme, qui serra très affectueusement la main du vieillard. « Je vais donc partir, » répondit-il. « Allez étudier et tâchez d'apprendre en 6 mois ce que les élèves de l'école de marine ont appris en 6 ans. »« Partir ?» dit Ursule en s'élançant du perron vers eux. « Oui, mademoiselle, pour vous mériter. Ainsi, plus j'y mettrai d'empressement, plus d'affection je vous témoignerai. » « Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre, » dit-elle en le regardant avec une tendresse infinie. « Partez après le 19. »« Oui, » dit le vieillard, « nous fêterons la Saint-Savinien. »« Adieu donc, » s'écria le jeune homme. « Je dois aller passer cette semaine à Paris, y faire les démarches nécessaires, mes préparatifs et mes acquisitions de livres, d'instruments de mathématiques, me concilier la faveur du ministre et obtenir les meilleures conditions possibles. » Ursule et son parrain reconduisirent Savinien jusqu'à la grille. Après l'avoir vu rentrant chez sa mère, ils le virent sortir, accompagné de Tiennette, qui portait une petite malle. « Pourquoi, si vous êtes riche, le forcez-vous à servir dans la marine ?» dit Ursule à son parrain. « Je crois que ce sera bientôt moi qui aurai fait des dettes, » dit le docteur en souriant. « Je ne le force point, mais l'uniforme, mon cher cœur, et la croix de la Légion d'honneur, gagnée dans un combat, effaceront bien des tâches. En 6 ans, il peut arriver à commander un bâtiment, et voilà tout ce que je lui demande. » « Mais il peut périr !» dit-elle en montrant au docteur un visage pâle. « Les amoureux ont, comme les ivrognes, un dieu pour eux !» répondit le docteur en plaisantant. À l'insu de son parrain, la pauvre petite, aidée par la Bougival, coupa pendant la nuit une quantité suffisante de ses longs et beaux cheveux blonds pour faire une chaîne. Puis, le surlendemain, elle séduisit son maître de musique, le vieux Schmuck, qui lui promit de veiller à ce que les cheveux ne fussent pas changés et que la chaîne fût achevée pour le dimanche suivant. À son retour, Savinien apprit au docteur et à sa pupille qu'il avait signé son engagement. Il devait être rendu le 25 à Brest. Invité par le docteur à dîner pour le 18, il passa ses deux journées presque entières chez le docteur. Et malgré les plus sages recommandations, les deux amoureux ne purent s'empêcher de trahir leur bonne intelligence aux yeux du curé, du juge de paix, du médecin de Nemours et de la Bougival. « Enfant, leur dit le vieillard, vous jouez votre bonheur en ne vous gardant pas le secret à vous-même. » Enfin, le jour de sa fête, après la messe, pendant laquelle il y eut quelques regards échangés, Savinien, épié par Ursule, traversa la rue et vint dans ce petit jardin, où tous deux se trouvèrent presque seuls. Par indulgence, le bonhomme lisait ses journaux dans le pavillon chinois. « Chère Ursule, dit Savinien, voulez-vous me faire une fête plus grande que ne pourrait me la faire ma mère en me donnant une seconde fois la vie ?»« Je sais ce que vous voulez me demander, dit Ursule en l'interrompant. « Tenez, voici ma réponse, ajouta-t-elle en prenant dans la poche de son tablier la chaîne faite de ses cheveux, et la lui présentant dans un tremblement nerveux qui accusait une joie illimitée. « Portez ceci, dit-elle, pour l'amour de moi. Puisse mon présent écarter de vous tous les périls en vous rappelant que ma vie est attachée à la vôtre. » « Ah, la petite masque, elle lui donne une chaîne de ses cheveux, » se disait le docteur. « Comment s'y est-elle prise? Coupée dans ses belles tresses blondes? Mais elle lui donnerait donc mon sang. » Ne trouverez-vous pas bien mauvais de vous demander, avant de partir, une promesse formelle de n'avoir jamais d'autre mari que moi? Dit Savinien en baisant cette chaîne et regardant Ursule sans pouvoir retenir une larme. Si je ne vous l'ai pas trop dit déjà, moi qui suis venue contempler les murs de Sainte-Pélagie quand vous y étiez, répondit-elle en rougissant. « Je vous le répète, Savinien, je n'aimerai jamais que vous et ne serai jamais qu'à vous. » En voyant Ursule, à demi cachée dans le massif, le jeune homme ne tint pas contre le plaisir de la serrer sur son cœur et de l'embrasser au front. Mais elle jeta comme un cri faible, se laissa tomber sur le banc, et lorsque Savinien se mit auprès d'elle en lui demandant pardon, il vit le docteur debout devant eux. « Mon ami, dit-il, Ursule est une véritable sensitive qu'une parole amère tuerait. Pour elle, vous devrez modérer l'éclat de l'amour. Ah, si vous l'eussiez aimée depuis 16 ans, vous vous seriez contenté de sa parole, ajouta-t-il pour se venger du mot par lequel Savinien avait terminé sa dernière lettre. 2 jours après, Savinien partit. Malgré les lettres qu'il écrivit régulièrement à Ursule, elle fut en proie à une maladie sans cause sensible. Semblable à ces beaux fruits attaqués par un ver, une pensée lui rongeait le cœur. Elle perdit l'appétit et ses belles couleurs. Quand son parrain lui demanda la première fois ce qu'elle éprouvait, « Je voudrais voir la mer, » dit-elle. « Il est difficile de te mener en décembre voir un port de mer, » lui répondit le vieillard. « Irai-je donc ? » dit-elle. De grands vents s'élevaient. Ursule éprouvait des commotions en croyant, malgré les savantes distinctions de son parrain, du curé, du juge de paix, entre les vents de mer et ceux de terre, que Savinien se trouvait aux prises avec un ouragan. Le juge de paix la rendit heureuse pour quelques jours avec une gravure qui représentait un aspirant en costume. Elle lisait les journaux en imaginant qu'il donnerait des nouvelles de la croisière pour laquelle Savinien était parti. Elle dévora les romans maritimes de Cooper et voulut apprendre les termes de marine. Ces preuves de la fixité de la pensée, souvent jouées par les autres femmes, furent si naturelles chez Ursule qu'elle vit en rêve chacune des lettres de Savinien, et ne manqua jamais à les annoncer le matin même en racontant le songe avant-coureur. « Maintenant, dit-elle au docteur, la quatrième fois que ce fait eut lieu sans que le curé et le médecin en fussent surpris, je suis tranquille. À quelque distance que Savinien soit, s'il est blessé, je le sentirai dans le même instant. » Le vieux médecin resta plongé dans une profonde méditation que le juge de paix et le curé jugèrent douloureuse à voir l'expression de son visage. « Qu'avez-vous ? » lui demandèrent-ils quand Ursule les eut laissés seuls. « Vivra-t-elle ? » répondit le vieux médecin. « Une si délicate et si tendre fleur résistera-t-elle à des peines de cœur ?» Néanmoins, la petite rêveuse, comme la surnomma le curé, travaillait avec ardeur. Elle comprenait l'importance d'une grande instruction pour une femme du monde, et tout le temps qu'elle ne donnait pas au chant, à l'étude de l'harmonie et de la composition, elle le passait à lire les livres que lui choisissait l'abbé Chaperon dans la riche bibliothèque de son parrain. Tout en menant cette vie occupée, elle souffrait, mais sans se plaindre. Parfois, elle restait des heures entières à regarder la fenêtre de Savinien. Le dimanche, à la sortie de la messe, elle suivait Madame de Portenduère en la contemplant avec tendresse, car malgré ses duretés, elle aimait en elle la mère de Savinien. Sa piété redoublait. Elle allait à la messe tous les matins, car elle crut fermement que ses rêves étaient une faveur de Dieu. Effrayée des ravages produits par cette nostalgie de l'amour, le jour de la naissance d'Ursule, son parrain lui promit de la conduire à Toulon, voir le départ de l'expédition d'Alger, sans que Savinien, qui en faisait partie, en fût instruit. Le juge de paix et le curé gardèrent le secret au docteur sur le but de ce voyage, qui parut être entrepris pour la santé d'Ursule, et qui intrigua beaucoup les héritiers minorés. Après avoir revu Savinien en uniforme d'aspirant, après avoir monté sur le beau vaisseau de l'amiral à qui le ministre avait recommandé le jeune Portenduère, Ursule, à la prière de son ami, alla respirer l'air de Nice et parcourut la côte de la Méditerranée jusqu'à Gênes, où elle apprit l'arrivée de la flotte devant Alger et les heureuses nouvelles du débarquement. Le docteur aurait voulu continuer ce voyage à travers l'Italie, autant pour distraire Ursule que pour achever en quelque sorte son éducation en agrandissant ses idées par la comparaison des mœurs, des pays et par les enchantements de la terre où vivent les chefs-d'œuvre de l'art et où tant de civilisations ont laissé leurs traces brillantes. Mais la nouvelle de la résistance opposée par le trône aux électeurs de la fameuse chambre de 1830 ramena le docteur en France, où il ramena sa pupille dans un état de santé florissante et riche d'un charmant petit modèle du vaisseau sur lequel servait Savinien. Les élections de 1830 donnèrent de la consistance aux héritiers, qui, par les soins de Désiré Minoret et de Goupil, formèrent à Nemours un comité dont les efforts firent nommer à Fontainebleau le candidat libéral. Massin exerçait une énorme influence sur les électeurs de la campagne. 5 des fermiers du maître de poste étaient électeurs. Dionis représentait plus de 11 voix. En se réunissant chez le notaire, Crémière, Massin, le maître de poste et leurs adhérents finirent par prendre l'habitude de s'y voir. Au retour du docteur, le salon de Dionis était donc devenu le camp des héritiers. Le juge de paix et le maire, qui se lièrent alors pour résister aux libéraux de Nemours, battus par l'opposition, malgré les efforts des châteaux situés aux environs, furent étroitement unis par leur défaite. Lorsque Bongrand et l'abbé Chaperon apprirent au docteur le résultat de cet antagonisme, qui dessina pour la première fois deux parties dans Nemours et donna de l'importance aux héritiers minorés, Charles X partait de Rambouillet pour Cherbourg. Désiré Minoret, qui partageait les opinions du barreau de Paris, avait fait venir de Nemours 15 de ses amis commandés par Goupil, et à qui le maître de poste donna des chevaux pour courir à Paris, où ils arrivèrent chez Désiré dans la nuit du 28. Goupil et Désiré coopérèrent avec cette troupe à la prise de l'hôtel de ville. Désiré Minoret fut décoré de la Légion d'honneur et nommé substitut du procureur du roi à Fontainebleau. Goupil eut la croix de juillet. Dionis fut élu maire de Nemours en remplacement du sieur Levrault. Et le conseil municipal se composa de Minoret Levrault, adjoint, de Massin, de Crémière et de tous les adhérents du salon de Dionis. Bongrand ne garda sa place que par l'influence de son fils, fait procureur du roi à Melun, et dont le mariage avec Mademoiselle Levrault parut alors probable. En voyant le 3% à 45, le docteur partit en poste pour Paris et plaça 540 000 francs en inscription au porteur. Le reste de sa fortune, qui allait environ à 270 000 francs, lui donna, mis à son nom dans le même fonds, ostensiblement 15 000 francs de rente. Il employa de la même manière le capital légué par le vieux professeur à Ursule, ainsi que les 8 000 francs produits en 9 ans par les intérêts, ce qui fit à sa pupille 1400 francs de rente, au moyen d'une petite somme qu'il ajouta pour arrondir ce léger revenu. D'après les conseils de son maître, la vieille Bougival eut 350 francs de rente, en plaçant ainsi 5 000 et quelques 100 francs d'économie. Ces sages opérations, méditées entre le docteur et le juge de paix, furent accomplies dans le plus profond secret à la faveur des troubles politiques. Quand le calme fut à peu près rétabli, le docteur acheta une petite maison contiguë à la sienne et l'abattit ainsi que le mur de sa cour pour faire construire à la place une remise et une écurie. Employer le capital de 1 000 francs de rente à se donner des communs parut une folie à tous les héritiers minorés. Cette prétendue folie fut le commencement d'une ère nouvelle dans la vie du docteur, qui, par un moment où les chevaux et les voitures se donnaient presque, ramena de Paris 3 superbes chevaux et une calèche. Quand, au commencement de novembre 1830, le vieillard vint pour la première fois, par un temps pluvieux, en calèche, à la messe, et descendit pour donner la main à Ursule, tous les habitants accoururent sur la place, autant pour voir la voiture du docteur et questionner son cocher, que pour gloser sur la pupille à l'excessive ambition de laquelle Massin, Crémière, le maître de poste et leurs femmes attribuaient les folies de leur oncle.
« La calèche ! Hé, Massin ! » cria Goupil. « Votre succession va bon train, hein ?»«
Tu dois avoir demandé de bons gages, Cabirolle, » dit le maître de poste au fils d'un des conducteurs qui restait auprès des chevaux, « car il faut espérer que tu n'useras pas beaucoup de fer chez un homme de 84 ans. Combien les chevaux ont-ils coûté ?»«
4 000 francs. La calèche, quoique de hasard, a été payée 2 000 francs. Mais elle est belle. Les roues sont à patente. »
« Comment dites-vous, Cabirolle ? » demanda madame Crémière.
« Il dit à ma tante, » répondit Goupil. « C'est une idée des Anglais qui ont inventé ces roues-là. Tenez, voyez-vous, on ne voit rien du tout. C'est emboîté. C'est joli, on n'accroche pas. Il n'y a plus ce vilain bout de fer carré qui dépassait l'essieu. »
« À quoi rime, ma tante ? »
dit alors innocemment madame Crémière.
« Comment ? » dit Goupil. « Ça ne vous tente donc pas ?»«
Ah, je comprends, » dit-elle.
« Eh bien non, vous êtes une honnête femme, » dit Goupil. « Il ne faut pas vous tromper. Le vrai mot, c'est « à patte entre », parce que l'affiche est cachée. »« « Oui, madame, » dit Cabirolle, qui fut la dupe de l'explication de Goupil, tant le clerc la donna sérieusement.
« C'est une belle voiture, tout de même !» s'écria Crémière. « Et il faut être riche pour prendre un pareil genre. »«
Elle va bien, la petite, » dit Goupil. « Mais elle a raison. Elle vous apprend à jouir de la vie. »
Pourquoi n'avez-vous pas de beaux chevaux et des calèches, vous, papa Minoret? Vous laisserez-vous humilier? À votre place, moi, j'aurais une voiture de prince.
Voyons, Cabirolle, dit Massin, est-ce la petite qui lance notre oncle dans ces luxes-là?
Je ne sais pas, répondit Cabirolle, mais elle est quasiment la maîtresse au logis. Il vient maintenant maître sur maître de Paris. Elle va, dit-on, étudier la peinture.
Je saisirai cette occasion pour faire tirer mon portrait, dit madame Crémière.
En province, on dit encore tirer au lieu de faire un portrait.
Le vieil allemand n'est cependant pas renvoyé, dit madame Massin.
Il y est encore aujourd'hui, répondit Cabirolle.
Abondance de chiens ne nuit pas, dit madame Crémière, qui fit rire tout le monde.
Maintenant, s'écria Goupil, vous ne devez plus compter sur la succession. Ursule a bientôt 17 ans. Elle est plus jolie que jamais. Les voyages forment la jeunesse, et la petite farceuse tient votre oncle par le bon bout. Il y a 5 à 6 paquets pour elle aux voitures par semaine, et les couturières, les modistes viennent lui essayer ici ses robes et ses affaires. Aussi ma patronne est-elle furieuse. Attendez Ursule à la sortie et regardez son petit châle de cou, un vrai cachemire de 600 francs.
La foudre serait tombée au milieu du groupe des héritiers. Elle n'aurait pas produit plus d'effet que les derniers mots de Goupil, qui se frottait les mains.
Le vieux salon vert du docteur fut renouvelé par un tapissier de Paris. Jugé sur le luxe qu'il déployait, le vieillard était tantôt accusé d'avoir scellé sa fortune et de posséder 60 000 livres de rente, tantôt de dépenser ses capitaux pour plaire à Ursule. On faisait de lui tour à tour un Richard et un libertin.
Ce mot « c'est un vieux fou » résuma l'opinion du pays.
Cette fausse direction des jugements de la petite ville eut pour avantage de tromper les héritiers, qui ne soupçonnèrent point l'amour de Savinien pour Ursule, véritable cause des dépenses du docteur, enchanté d'habituer sa pupille à son rôle de vicomtesse, et qui, riche de plus de 50 000 francs de rente, se donnait le plaisir de parer son idole. Au mois de février 1832, le jour où Ursule avait 17 ans, le matin même, en se levant, elle vit Savinien en costume d'enseigne à sa fenêtre.
« Comment n'en ai-je rien su ? » se dit-elle.
Depuis la prise d'Alger, où Savinien se distingua par un trait de courage qui lui valut la croix, la corvette sur laquelle il servait étant restée pendant plusieurs mois à la mer, il lui avait été tout à fait impossible d'écrire au docteur. Et il ne voulait pas quitter le service sans l'avoir consulté. Jaloux de conserver à la marine un nom illustre, le nouveau gouvernement avait profité du remue-ménage de juillet pour donner le grade d'enseigne à Savinien. Après avoir obtenu un congé de 15 jours, le nouvel enseigne arrivait de Toulon par la malle-poste pour la fête d'Ursule et pour prendre en même temps l'avis du docteur.
« Il est arrivé !»
cria la filleule en se précipitant dans la chambre de son parrain.
« Très bien, » répondit-il.
« Je devine le motif qui lui fait quitter le service, et il peut maintenant rester à Nemours. »«
Ah ! Voilà ma fête ! Elle est toute dans ce mot !» dit-elle en embrassant le docteur.